Chapitre 51. Rachel resta assise dans sa cage un long moment. Qu'allait-elle devenir si on la laissait croupir là-dedans? La réponse était hélas assez évidente. Soudain, une idée explosa dans son esprit. Se pressant contre la porte de sa cage, le plus silencieusement possible, même s'il n'y avait plus personne dans la chambre, la fillette colla un œil au guichet. Pour commencer, elle sonda la pièce du mieux qu'elle put car elle craignait que la voyante soit en train de l'espionner. Sis venait souvent la harceler pendant la nuit. Dans ses rêves, certes, mais savait-on jamais avec ces pratiquants de la magie. Si elle s'était matérialisée près du lit sans crier gare, Rachel n'en aurait pas été surprise. Au château, beaucoup de rumeurs circulaient à propos des étranges phénomènes qui se produisaient depuis l'arrivée de la voyante. Par bonheur, la chambre était vide. Aucune silhouette en robe noire. Certaine d'être seule, Rachel se tordit le cou pour observer le verrou. Elle dut y regarder à deux fois tant elle fut surprise. Si le pen était bien en place dans la gâche, le levier n'était pas abaissé. Violette avait délibérément enfermé Rachel en entendant Sis frapper à la porte. Trop pressée d'aller ouvrir, elle avait oublié de bloquer le verrou. Si Rachel parvenait à retirer le pen de la gâche, elle pourrait sortir de sa prison. Sis et Violette étaient partis pour la grotte. Sans nul doute, elle ne reviendrait pas de sitôt. La fillette réussit à glisser une main entre les barreaux du guichet, mais le cadenas était hors de sa portée. Elle allait avoir besoin d'un bâton ou de quelque chose d'équivalent. Dans la cage, il n'y avait rien, bien entendu. La chambre débordait d'objets qui auraient pu convenir, mais ils étaient à l'extérieur de la prison de fer, justement. Tant que le pen serait dans la gâche, Rachel n'aurait pas la possibilité de pousser la fichue porte. Que le verrou soit ouvert, de ce point de vue-là, ne changeait rien à l'équation. Désespérée, Rachel se recroquevilla sur sa couverture. Tout allait de mal en pis ces derniers temps. Chase lui manquait terriblement. Grâce à lui, sa vie avait été merveilleuse pendant quelques années. Une famille adorable avec un père adoptif qui veillait sur elle et lui enseignait tout ce qu'il savait. Pour se passer les nerfs, Rachel tira frénétiquement sur le fil épais qui tenait en place le liseré en satin de sa couverture. Chase n'aurait pas été content de l'avoir renoncé ainsi, mais que pouvait-elle faire à part se lamenter? Dans la cage, rien ne l'aiderait à déloger ce pen de malheur. Ses bottines ne passeraient pas à travers le guichet, et aucun autre élément de sa tenue ne pouvait convenir. À part ça, elle disposait d'une couverture bien utile pour ne pas avoir froid, mais rien de plus. Violette l'avait dépouillée de tous ses objets personnels, il ne lui restait rien. Soudain, elle baissa les yeux, vit la longueur de fil enroulée au bout de son index et eut une illumination. Elle continua à tirer et disposa bientôt d'une impressionnante quantité de fil. Tel quel, il ne lui servirait à rien, mais Chase lui avait appris à fabriquer une corde à partir de fibres de chanvre. Rachel cassa le fil pour obtenir plusieurs brins, le nom technique d'après son père adoptif, qu'elle tissa ensuite en les faisant rouler dans ses mains, après les avoir bloqués entre ses jambes. Quand elle eut terminé, son morceau de ficelle était assez long pour ce qu'elle voulait tenter. Elle fit un nœud coulant au bout, puis approcha de nouveau du guichet. L'idée était de crocheter le levier avec son lasso improvisé, puis de tirer doucement jusqu'à ce que le pen sorte de la gâche. Plus facile à dire qu'à faire. La ficelle qu'elle lançait presque à l'aveuglette, après avoir passé une main hors du guichet, était bien trop légère pour autoriser une quelconque précision. Rachel s'entêta, manquant sa cible chaque fois. Trop légère pour être maniée avec précision, la ficelle manquait aussi de souplesse quand il s'agissait de glisser le long du levier, les rares fois où le lancer de Rachel atteignait son objectif. La fillette ramena sa ficelle à l'intérieur de la cage et commença à la travailler. Pour l'alourdir et rigidifier le nœud coulant, elle mouilla le tout avec sa salive, et afin de lui donner plus de souplesse, elle plia et replia la ficelle à plusieurs reprises. Le lancer suivant fut beaucoup plus précis. Une bonne chose parce que la main de Rachel commençait à souffrir de l'étrange position dans laquelle elle travaillait. Le combat pour la liberté s'éternisa. Voyant que la ficelle séchait, Rachel la ramena une nouvelle fois et l'humidifia en la mâchonnant, puis elle refit une tentative. En plein dans le mille! Le nœud coulant était autour du levier, presque exactement à l'endroit où il fallait. Rachel se pétrifia, consciente que tout allait se jouer dans les minutes à venir. Elle n'aurait pas de meilleure occasion, c'était certain. Mais avec sa main hors du guichet, il lui restait fort peu de place pour voir ce qu'elle faisait, et cette donnée était essentielle. Si elle tirait maintenant, ça, elle était en mesure de le voir, le nœud coulant glisserait du levier. Il fallait le pousser encore pour qu'il reste en place. La fillette essaya, mais la ficelle, trop humide, refusait de glisser. Jamais à court de ressources, Rachel fit tourner la ficelle entre son pouce et son index. Neutralisant le phénomène d'adhérence, ce mouvement rotatif permit au nœud coulant d'avancer sur le levier. Retenant son souffle, Rachel se tordit le cou pour voir où elle en était. À première vue, le nœud coulant ne pouvait pas être mieux positionné. Le plus difficile restait à faire et Rachel n'osait plus bouger. Au moindre faux mouvement, il lui faudrait tout recommencer, et elle ignorait si elle pouvait répéter un tel exploit avec la fatigue et l'énervement. Mais si elle n'avait pas assez bien réfléchi ou avait mal estimé la position idéale du nœud coulant? Le cœur battant la chamade, Rachel constata qu'elle haletait malgré tous ses efforts pour retenir sa respiration. Chase lui répétait toujours d'utiliser son cerveau, son meilleur jugement comme il disait, et de se fier ensuite à son analyse, la base même de la confiance en soi. Selon tous les critères dont elle disposait, Rachel estimait que le nœud coulant était parfaitement en place. Si elle tirait au lieu de faire tourner la ficelle entre ses doigts, l'adhérence l'aiderait à rester là où il fallait. Dès qu'elle se fut un peu calmée, Rachel passa à la dernière phase de son plan. Si le nœud coulant ne restait pas là où il était, près de la base du levier, il glisserait et retomberait dans le vide. Pour limiter ce risque, la fillette modifia la position de sa main afin de rectifier l'angle de la ficelle par rapport au verrou. Le nœud coulant sembla obéir à la volonté de l'enfant qui le manipulait. N'en croyant pas ses yeux, Rachel s'autorisa un soupir de soulagement. Très doucement, elle tira la ficelle vers elle, délogeant le pen de la gâche. Lorsque ce fut presque fait, une résistance lui indiqua que quelque chose coinçait. Quand on ouvrait un verrou de ce type, on soulevait toujours un peu le levier pour faciliter la translation du pen dans la gâche. Pour ce faire, Rachel devait simplement tendre un peu plus sa ficelle. Mais que se passerait-il si elle cassait? Comme elle n'avait pas lésiné sur le nombre de brins, la ficelle devait être du genre solide, mais jusqu'à quel point? C'était un moment délicat de son évasion, car en cas d'échec, elle devrait tout recommencer. Et si la déroute se répétait, elle serait tôt ou tard à court de fil. Rachel tira doucement, puis par à coup, et réussit à débloquer le pen. Un petit bruit lui annonça qu'elle était libre. Sans parvenir à y croire, elle ferma les yeux et poussa la porte qui s'ouvrit en grinçant sinistrement. Du dos de la main, Rachel essuya les larmes de joie qui ruisselaient sur ses joues. Elle s'était libérée. Si Chase avait vu ça, il en serait resté comme deux ronds de flanc. À présent, il fallait sortir du château avant le retour de Six ou de Violette. La reine déchue était-elle consciente de n'avoir pas abaissé le levier? Si elle s'en était souvenue et en avait parlé à la voyante, Rachel risquait d'avoir très peu de temps devant elle. Elle se précipita vers la porte, mais s'immobilisa soudain, car elle venait de penser à une chose très importante. Approchant du petit bureau installé dans un coin de la pièce, elle plaça la partie mobile dans la position favorite de Violette lorsqu'elle rédigeait ses notes et recommandations sur les individus à torturer ou à faire exécuter. Puis, elle ouvrit le tiroir central et le sortit de son logement. Depuis tant d'années, Violette n'avait pas changé de cachette. La clé était toujours à l'endroit où elle la dissimulait pendant la nuit. Dans son affolement, elle n'avait pas songé à la prendre. Très satisfaite, Rachel glissa sa trouvaille dans une de ses bottines, puis elle remit le tiroir en place et referma le bureau. En passant devant sa cage, elle poussa la porte, enclencha le verrou et n'omit pas d'abaisser le levier, une précaution élémentaire que Violette, par bonheur, avait omis de prendre. Si quelqu'un entrait dans la pièce, le verrou fermé donnerait l'impression que Rachel était toujours dans sa cage. Avec un peu de chance, Six et Violette ne songeraient pas à vérifier avant que leur prisonnière soit très loin du château. Rachel gagna la double porte et entr'ouvrit un des battants pour jeter un coup d'œil dehors. N'ayant rien vu d'inquiétant, elle sortit et referma derrière elle. Après avoir regardé à droite et à gauche, elle courut jusqu'à l'escalier et ne ralentit pas le rythme jusqu'à ce qu'elle soit à l'étage supérieur. Dans ce couloir, au mur lambrissé, l'attendait une porte qui était presque toujours fermée. Ici, les lampes brûlaient en permanence au cas où la reine aurait voulu aller en pleine nuit dans sa salle de bijoux. En avançant, la fillette se pencha pour récupérer la clé cachée dans sa bottine. Arrivée devant la porte, elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et aperçut un homme au fond du couloir. Rachel le connaissait. C'était un des majordomes. Elle l'avait souvent croisé dans les couloirs du palais, même si son nom lui échappait.
« Maîtresse Rachel ?»
lança-t-il quand il eut rejoint la fillette.
« Oui, que se passe-t-il »«
C'est plutôt moi qui devrais poser la question. »
Selon Chase, dans une situation embarrassante, il fallait faire montre d'un culot à toute épreuve. L'idée était de transférer le malaise et les doutes sur son interlocuteur. Ensemble, le père et la fille avaient souvent joué cette comédie pour s'amuser. Rachel savait donc ce qu'elle devait faire, et cette fois, ce n'était pas un jeu, mais une affaire de vie ou de mort. Elle plissa le front et prit l'air soupçonneux, comme Chase le lui avait appris. Pour que ce soit convaincant, il lui avait conseillé d'imaginer qu'un garçon qu'elle n'aimait pas tentait de l'embrasser.
« Et pourquoi ça ? »
lança-t-elle, pleine d'assurance.
« Eh bien, on dirait que vous alliez entrer dans la salle des bijoux de la reine. »«
Auriez-vous l'intention de me dépouiller des pièces qu'elle m'a envoyées chercher ? » « Est-ce pour ça que vous rôdiez dans le coin, attendant que quelqu'un entre dans la salle ?»
Le transfert de culpabilité était un très bon truc aussi.
« Moi, rôder pour voler ? Bien entendu que non. En revanche, j'aimerais bien savoir... »«
Vous aimeriez savoir ?»
répéta Rachel, ses petits poings plaqués sur les hanches.
« Êtes-vous responsable des bijoux royaux ? Dans ce cas, pourquoi n'allez-vous pas poser vos questions à la reine ?» Je suis sûr qu'elle ne verrait aucun inconvénient à être interrogée par un majordome. Et après, avec un peu de chance, elle vous condamnera au fouet, pas à la hache du bourreau.
Je suis en mission pour Sa Majesté. Dois-je appeler des gardes afin de vous empêcher de m'attaquer pour me détrousser ?
Des gardes ? Non, bien sûr que non.
Alors, de quoi vous mêlez-vous ?
Rachel regarda à droite et à gauche, ne vit personne et appela, pas trop fort.
« Garde, un voleur veut s'emparer des bijoux de la reine !»
Voyant que la petite furie ne se calmerait pas, l'homme tourna les talons et détala sans jeter un regard en arrière. À Tamarangue, quand on tenait à sa tête, il valait mieux ne pas se faire remarquer par les autorités. Rachel ouvrit la porte et entra. Elle aurait parié que personne ne l'avait entendue, mais il restait quand même préférable de ne pas s'attarder ici. Elle n'accorda pas une once d'attention aux meubles qui occultaient tout un mur et dont les dizaines de petits tiroirs contenaient une incroyable collection de colliers, de bracelets, de broches, de tiares et de bagues. Venant se camper devant l'étrange piédestal de marbre blanc qui occupait le coin opposé de la pièce, elle se souvint de l'époque où y était exposé l'objet favori de la reine Milena. Une boîte ornée de pierres précieuses dont elle ne se serait pas séparée pour tout l'or du monde. À sa place se trouvait une autre boîte, si noire qu'elle semblait refléter les plus sombres pensées du gardien en personne. Extraordinairement sinistre, ce coffret semblait absorber toute la lumière de la pièce et peut-être même toute celle du monde. À l'époque où la boîte d'Ordaine était camouflée, Rachel avait déjà détesté la toucher. Aujourd'hui, sa répugnance était encore plus forte. Mais elle n'avait pas le choix. Si elle voulait s'enfuir, elle devait faire vite. Si Violette ne se souvenait pas qu'elle avait oublié de baisser le levier du verrou, Sis pouvait le lire dans son esprit, la voyante était tout à fait capable de ce genre de choses. Si elle savait que la petite prisonnière avait la possibilité de s'évader, elle reviendrait, c'était certain. Rachel ramassa un sac que quelqu'un avait négligemment posé sur le sol. En fait, c'était celui qu'avait utilisé Samuel pour transporter la boîte. Puis elle s'empara de l'objet plus noir que la nuit et le glissa dedans. Avant de sortir, la fillette se regarda dans le grand miroir en pied au magnifique cadre de bois. Elle détesta son image, avec cette abominable coupe de cheveux. À l'époque où elle était son jouet humain, Violette lui interdisait d'avoir les cheveux longs puisqu'elle n'était qu'une misérable nullité. Dès qu'elle l'avait eu de nouveau en son pouvoir, la reine s'était empressée de la priver de sa superbe crinière blonde. Depuis cette séance de coiffure forcée, la fillette n'avait pas eu l'occasion de se voir dans une glace. Eh bien, le résultat était catastrophique. Dès leur rencontre, Chase l'avait prévenue. Si elle voulait qu'il l'adopte, elle devrait avoir de beaux et longs cheveux. Ces dernières années, le casque d'or de Rachel était devenu magnifique et elle s'était sentie pour de bon la fille du garde-frontière. Lorsqu'elle avait volé la boîte d'Orden pour la première fois, afin de rendre service au sorcier Giller, Rachel s'était également regardée dans ce miroir. Il fallait admettre qu'elle n'était plus la même. Ses traits moins enfantins ne pouvaient plus être qualifiés de mignons. D'après Chase, ça annonçait la phase « grande saucisse » que traversaient beaucoup d'adolescentes avant de se métamorphoser en femme belle à couper le souffle. Un destin qu'il prédisait à sa fille adoptive si les petits cochons ne la mangeaient pas. Désormais, Rachel doutait de vivre assez longtemps pour voir ce jour. De toute façon, sans Chase pour la protéger et la former, elle n'avait plus tellement envie de grandir. Chase était mort, et sa fille adoptive avait de nouveau les cheveux courts. Enfin, si ça n'avait été que ça. Violette avait pris un malin plaisir à tondre maladroitement sa victime préférée afin qu'elle n'ait plus l'air de rien. Coiffée comme ça, elle ressemblait à un corneau qu'on tolère à condition qu'il dorme à côté du tas d'ordures. Certes, mais il n'y avait pas que ça. Dans ce miroir de malheur, Rachel voyait l'esquisse de la femme qu'elle serait un jour, cette beauté que son père adoptif disait avoir hâte de connaître. Mais comment réagirait-il ? S'il la voyait avec sa coupe au bol, délibérément ratée. Rachel repoussa ses pensées tout au fond de son esprit, où elle aurait tout le temps d'attendre des jours plus paisibles, et mit le sac en bandoulière, histoire d'avoir les mains libres. Puis elle ouvrit la porte, jeta un coup d'œil dehors, des deux côtés, et soupira de soulagement. Il n'y avait personne en vue. Une fois hors de la salle, elle referma la porte et prit le chemin de la liberté. La configuration des couloirs du château était encore très vive dans son esprit. Elle s'en souvenait presque aussi bien que de la forme des lèvres de Chase lorsqu'elle parvenait à le faire sourire contre son gré. Lorsqu'il tentait de la foudroyer du regard, elle adorait lui faire perdre son sérieux avec des mimiques ou des grimaces. Pour éviter au maximum les gardes, Rachel emprunta l'escalier de service. Les employés du château qu'elle croisa s'affairait comme à l'accoutumée, et aucun ne semblait savoir qu'il y avait une nouvelle reine. La nouvelle ne briserait aucun cœur, car les gens détestaient unanimement Violette. Cela dit, Six les terrifiait. Les blanchisseuses, les servantes et les divers hommes de peine ne lui prêtèrent aucune attention. Pour plus de sécurité, elle évita de croiser leurs regards, de peur qu'ils aient soudain l'idée de l'interroger. S'engageant dans un couloir qui conduisait hors du château, Rachel dut s'arrêter brusquement lorsqu'elle se trouva devant deux gardes en uniforme rouge, armés de hallebardes.
« Vous devez filer !»
leur cria-t-elle.
« Et vite ! Les soldats de l'ordre impérial investissent le château !»
Un des hommes saisit à deux mains la hampe de sa hallebarde et s'y appuya presque nonchalamment.
« Nous n'avons rien à craindre de ces hommes, ce sont nos alliés !»«
Ils veulent décapiter tous les gardes privés de la reine ! J'ai entendu leur chef donner cet ordre ! Coupez-leur la tête à tous ! Voilà ce qu'il a crié. Comme ça, il y aura plus de butin pour nous. Les soldats ont tous brandi leur énorme hache de guerre. Ils ont la promesse de pouvoir dépouiller tous les gardes qu'ils auront abattus. Dépêchez-vous de filer, parce qu'ils sont bientôt là. »
Les deux gardes en restèrent bouche bée.
« Par là, l'escalier de service. Ils n'auront pas l'idée de vous y chercher. Vite, je préviendrai vos camarades. »
Les gardes remercièrent la petite fille d'un signe de tête, puis ils se précipitèrent vers l'escalier. Dès qu'ils furent hors de vue, Rachel continua tout droit et sortit très vite du château. Elle emprunta le chemin que suivaient les serviteurs lorsqu'ils allaient faire des courses en ville. Des soldats patrouillaient dans les environs, mais ils n'accordaient aucune attention aux employés du château. Avisant un groupe de menuisiers, Rachel fit le chemin avec eux, bien dissimulé par une des grandes roues de leur chariot lesté de planches. Les gardes laissaient passer tout le monde, et ils ne fouillaient que les jolies femmes, histoire de joindre l'utile à l'agréable. Trop petite et tondue comme elle l'était, la fugitive n'intéressa aucun de ces amateurs de charme féminin. Une fois qu'elle eut franchi le mur d'enceinte du château, Rachel resta avec ses menuisiers jusqu'à ce qu'une bonne occasion de filer se présente. Alors que personne ne regardait dans sa direction, elle s'enfonça dans la forêt, d'un côté de la piste, et courut comme une folle entre les troncs des pins et des sapins. Cédant pour la première fois à la panique, elle fonça comme si elle avait le gardien à ses trousses. C'était sa seule chance. Si elle la gâchait, tout serait fichu. Bien entendu, si des soldats de l'ordre la capturaient dans ces bois, elle serait dans de très sales draps. Sans savoir très bien ce qu'il lui ferait, elle se doutait que ce ne serait pas très agréable. Un soir, devant un bon feu de camp, Chase lui avait donné une idée générale, puis un peu plus détaillée, de ce que les soudards infligeaient à leurs prisonnières. Il lui avait conseillé de ne pas se laisser capturer par des brutes de ce genre, bref, de se battre jusqu'à son dernier souffle, plutôt que d'être prise. Il ne voulait pas l'effrayer, avait-elle dit, mais l'inciter à se montrer toujours très prudente. Terrorisée, elle avait quand même éclaté en sanglots, cherchant une consolation entre les bras de son père adoptif. Se battre jusqu'à son dernier souffle était un programme comme un autre, certes, mais comment faire lorsqu'on était désarmé? On lui avait pris ses couteaux, et elle n'avait pas eu l'idée, avant de fuir la chambre de Violette, de voir si elle ne pouvait pas les récupérer. Au moins, elle aurait pu passer par les cuisines et voler une ou deux bonnes lames. Trop occupée à se féliciter de son astucieuse évasion, elle avait négligé de se procurer une arme. De quoi faire revenir Chase d'entre les morts, avec l'intention de lui flanquer une bonne fessée. Bon sang, elle en rougissait de honte. Rachel s'arrêta brusquement, car elle venait de voir une branche morte juste devant elle. Après l'avoir ramassée, elle éprouva sa solidité et fut satisfaite. Deux vérifications valant mieux qu'une, elle tapa sur un tronc avec sa massue improvisée et trouva très convaincant le bruit mat qui retentit. L'arme était un peu plus lourde qu'elle l'aurait voulu, mais elle n'allait pas faire la fine bouche. Elle ralentit un peu le pas, histoire de se ménager, mais continua à s'éloigner du château sans s'autoriser de pause. Quand découvrirait-on son évasion et le vol de la boîte? Elle n'en savait rien, mais Sis pouvait être capable de la traquer à distance, par exemple en regardant dans une coupe d'eau magique. Un bon argument pour ne pas prendre le temps de se reposer. Au début de l'après-midi, elle tomba sur une piste qui semblait devoir la conduire vers le nord. Aydindril était dans cette direction. Peut-être trop loin pour qu'elle y arrive jamais, mais elle n'avait pas d'autre idée de destination. Si elle retrouvait la forteresse du sorcier, Zed pourrait certainement l'aider. Plongée dans ses pensées, Rachel faillit percuter l'homme qui se dressa soudain devant elle. Levant les yeux, elle constata qu'il s'agissait d'un soldat de l'ordre impérial.
« Eh bien, qu'est-ce que nous avons là ? »
lança-t-il. Alors qu'il tendait un bras vers elle, Rachel lui flanqua un coup de massue sur un genou. Hurlant de douleur, l'homme s'écroula en se tenant la jambe. Rachel courut plus vite que jamais dans sa vie. Abandonnant la piste, elle opta de nouveau pour un étroit sentier à travers bois. Sur un terrain pareil, sa petite taille lui conférait un avantage non négligeable. Et elle en aurait besoin parce qu'une dizaine d'hommes, au minimum, vu le boucan qu'il faisait, la poursuivaient dans les broussailles. Dans le lointain, le type qu'elle avait amoché criait à ses camarades de rattraper la foutue catin. Alors qu'elle déboulait dans une clairière, le souffle court, Rachel vit que des hommes lui barraient le chemin. Elle tenta de les esquiver, mais tomba sur d'autres soldats. Encerclée, voilà ce qu'elle était, et paniquée pour ne rien arranger. Dans son dos, elle entendit un bruit de chute. Sans se retourner, elle continua à courir. Un homme cria, puis il y eut un nouveau bruit sourd. Ces idiots se cassaient-ils la figure tout seuls? Se prenaient-ils les pieds dans des racines? Un autre type cria. Cette fois, Rachel s'arrêta et jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Les soudards ne s'étalaient pas comme des crétins. Quelqu'un les abattait méthodiquement. Il y eut un cri terrible, comme si un des soldats venait de se faire écorcher vif. Quel monstre rôdait dans cette forêt? Aucune importance. Si les soudards la capturaient, Rachel n'aurait pas une chance de s'en tirer vivante. En continuant à courir, elle s'en donnait une, si minime fut-elle. Soudain, trois hommes jaillirent des broussailles en beuglant de rage. Rachel accéléra le rythme, mais les colosses, avec leurs longues jambes, n'avaient aucun mal à courir plus vite qu'elle. Jetant un coup d'œil derrière elle, Rachel vit qu'un des trois types s'était immobilisé et se tenait le dos comme s'il avait très mal. « Rien d'étonnant, se dit-elle, puisque 10 pouces d'acier dépassaient maintenant de son ventre. » Les deux camarades du moribond se retournèrent pour voir ce qui se passait. Quand l'agonisant s'écroula, libérant la lame de son agresseur, Rachel vit l'homme qui jouait les anges exterminateurs. C'était Chase, grandeur nature et plus en forme que jamais. De quoi ne pas en croire ses yeux. Les deux survivants passèrent à l'attaque. Avec l'économie de gestes qui le caractérisait, le père adoptif de Rachel disposa d'eux en quelques passes d'armes rapides. Mais d'autres soldats arrivaient, et les choses risquaient de se compliquer même pour le légendaire garde-frontière. Rachel décida de voler à son secours. Dès qu'elle en avait la possibilité, elle jouait de nouveau les briseuses de genoux, offrant à Chase plusieurs victoires faciles sur des adversaires tétanisés par la douleur. Mais des renforts arrivaient sans cesse, et les deux combattants, Chase avec son épée et Rachel avec sa branche, passèrent un rude moment avant d'avoir considérablement éclairci les rangs adverses. Sentant qu'elle fatiguait, Rachel échangea sa massue contre un couteau subtilisé à un cadavre. L'effet fut aussi convaincant. Fou de douleur quand elle leur enfonçait sa lame dans les mollets, les soudards se laissaient obligeamment décapiter par Chase. Enfin, le dernier s'écroula et le calme revint, uniquement troublé par la respiration à rien rapide des deux héros. Dès qu'elle eut récupéré, Rachel leva les yeux vers Chase. C'était bien lui. Pas son fantôme, même si elle avait toujours un peu peur qu'il se volatilise. Bien au contraire, il sourit à sa fille adoptive.
« Chase, que fais-tu ici ?»«
Je venais voir si tout allait bien pour toi. »«
Pardon ? Je te croyais mort et j'étais prisonnière au château. J'ai dû me sauver toute seule. Pourquoi as-tu tant tardé à venir ?»«
Il fallait bien que tu apprennes à voler de tes propres ailes, non ?» Je ne pouvais pas te mâcher le travail jusqu'à la fin de tes jours.
Peut-être, mais un coup de pouce ne m'aurait pas fait de mal.
Sans blague. Tu as pourtant l'air de t'en être bien sorti.
Mais c'était affreux. Violette m'a enfermé dans une cage de fer avec un appareil qui m'empêchait de parler.
Une lueur d'intérêt brilla dans le regard de Chase.
Bien sûr, tu n'as pas pensé à emporter cet instrument des plus utiles.
Rachel sourit et passa ses bras autour de la taille du colosse. Au moment de leur rencontre, trop petite pour ça, elle lui entourait une jambe de ses petits bras. Le temps avait passé, mais elle se sentait toujours autant en sécurité lorsqu'il lui tapotait le dos, comme pour dire que rien n'était si grave que ça en ce monde.
« Je t'ai cru mort !»
souffla Rachel des larmes aux yeux. Chase soupira et ébouriffa ce qu'il restait de cheveux à la gamine.
« Je ne te ferai jamais un truc pareil, ma chérie. J'ai promis de veiller sur toi, et je tiens toujours parole. »«
On dirait que je suis condamnée à être ta fille dans ce cas. »«
On dirait bien, oui. Mais avec ces cheveux-là, ça risque d'être difficile. Si tu veux rester dans la famille, ils auront intérêt à repousser. Sauf erreur de ma part, je t'ai prévenu il y a longtemps. »
Rachel sourit à travers ses larmes.
Chase était vivant.